Bonsoir, nous sommes le lundi 4 septembre 2023, il est 20h, et comme tous les lundis, à cette heure-ci, on joue la prolongation. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'On joue la prolongation. On est vraiment content d'être là, de retour ce soir pour parler football. On est bien sur Radio Judaïka 90.2 FM où vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live de la radio. Aujourd'hui, avec moi, pour parler football. Eh oui, vous l'avez reconnu, l'un des piliers de la saison. Il nous apporte chaque lundi soir sa fine connaissance du ballon rond, de tout ce qui accompagne le monde du football, du marketing, du sur et en dehors du terrain. On va apprendre beaucoup, c'est sûr, en l'écoutant. C'est le fondateur de l'agence de marketing sportif, Sportimize, Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Bonsoir Sam, bonsoir à tous. Super. Un lundi. À la fin de la période des transferts, avant une trêve internationale, il y a juste un petit problème, on en reparlera plus tard, le classement de la Jupiler Pro League.
On va voir ça, on va voir
le
ça.
Le cercle devant le club.
C'est ça le problème. Également, ce soir, on va pousser un peu le curseur. C'est un nouveau membre récurrent maintenant de notre émission. Il est... fait le plaisir d'être là pour la première de la saison. Vous reconnaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, qui reconnaissent pas le son, tant pis pour vous. Pour les autres. Voilà, c'est un fan du Paris Saint-Germain, c'est l'ancien entraîneur de la sélection féminine de l'Union Saint-Gilloise. Il a été champion de saison. Il occupe aujourd'hui le développement économique du féminin White Star, notamment. Bienvenue à toi, Thomas Matuszewski. Salut Thomas, comment vas-tu ? Parfait. Et notre dernier participant aujourd'hui, vous allez reconnaître. Voilà. Alors on va peut-être pas s'emballer tout de suite. Pour ça, vous pourra.
Ici, profitons du moment.
On s'emballe.
Le moment risque de ne pas durer.
Vous l'avez retenu, c'est notre mauve préféré. Il peut pérorer un petit peu faire le malin en ce moment parce que c'est un club en haut du classement. Il s'agit bien sûr d'Henri Daniel. Salut Henri, comment vas-tu ? J'imagine que tu vas très bien. Et bah écoute, on est ravis que tu sois là et on va pouvoir avec toi parler de des Mauves hein, qui commencent cette saison de la meilleure des manières quasiment. Au programme ce soir, bien sûr, le Belge de la semaine. Hein, chacun va nous donner son Belge de la semaine. Ensuite, on va parler de la sixième journée de Jupiler Pro League qui nous a offert pas mal de chocs au sommet. Pas mal de chocs entre Européens notamment et Anderlecht. On aura la minute Sportimize. Hein, Alex va nous parler, je crois qu'il va être question de football américain et plus
Tout
précisément...
du football américain, mais pas en NFL.
Mais pas en NFL.
Le gros teasing.
Exactement, ça va être très
on
intéressant.
Patience.
On aura aussi droit à un coup de gueule de Thomas. Thomas va nous pousser un coup de gueule et il est bien placé pour parler du sujet. On va parler de l'affaire qui secoue le football espagnol, le football européen même. Luis Rubiales et son baiser forcé lors de la remise de la Coupe du Monde féminine, et puis des remous que ça a, et des conséquences notamment en Belgique. Et ensuite, on passera au dossier numéro 2, on parlera Coupe d'Europe. Henri, tu pourras quand même rester, nous éclairer quand même avec ta connaissance et ton expérience du sujet. Mais on s'agira bien sûr de parler des tirages au sort des diverses Coupes d'Europe, et notamment le sort qui a été réservé au club belge. Écoutez, je pense qu'on peut commencer, on va y aller hein, tout de suite. Et voilà, le coup d'envoi est donné, et je vous propose bien sûr, on commence tout de suite par le Belge de la semaine. Henri, est-ce que tu veux te lancer en premier ?
Et volontiers. Moi, j'ai choisi Jérémy Doku.
Jérémy Doku, très bonne idée.
Jeune Belge prometteur qui, a bien géré son début de carrière, parce qu'il est parti très jeune dans Anderlecht. Il a choisi une étape qui était intéressante en partant à Rennes. Je trouvais que c'était un club sub-top, je pense, on peut le dire comme ça. Qui était un bon choix aussi humain, plutôt que de se retrouver dans un environnement trop concurrentiel.
Et une très belle ville.
Une très belle ville, Rennes. Et je trouve qu'il a...
oui.
Donc évidemment, il n'a pas été épargné par les blessures. Et donc,
c'est vrai qu'il...
Son début de championnat, première saison, pratiquement pas joué. La deuxième, il a mis du temps à se remettre, mais quand il est à 100%, il était vraiment percutant, et je pense qu'il apportait ce qu'aucun autre joueur n'apporte. Et maintenant, il a eu un transfert, je pense, de rêve à Manchester City. C'est pas donné à tout le monde, à tous les jeunes, il est titulaire directement. Et donc, chapeau à lui, en espérant qu'il réitère ce même genre d'exploit. Enfin, il n'y a pas encore fait, mais avec l'équipe nationale.
Avec, tout à fait.
Dans les mois et les années à venir. Donc, chapeau à Jérémy Doku.
Et puis, tu n'oublieras pas de mentionner, mais Alex en était chargé autrefois, que ce transfert n'est pas neutre non plus pour Anderlecht. Il y a une petite tirée.
Après, il y avait un pourcentage sur la plus-value, effectivement.
Il y avait un sacré pourcentage. Mais après, les chiffres, j'ai presque envie de dire, fluctuent, parce qu'il y a la version Sacha Tavolieri qui connaît la famille, qui parle de 65 millions. Il y a la version Transfermarkt et Fabrizio Romano qui est à 60. Donc l'une en fonction de l'autre, il est le quatrième ou le cinquième.
Est-ce qu'il n'y a pas une variable sur la partie formation ?
Oui, mais justement, donc c'est ça qui fluctue, on ne sait pas, mais en tout cas autour des 8 millions, plus la vente d'Overbrugge, ça permet à Anderlecht de se faire des petites folies et de contacter Hazard et Kasper Schmeichel. Thorgan Hazard.
Thorgan, exactement. Écoutez, on souhaite bon vent à Doku et on reparlera de lui et de la place qu'il pourrait prendre en équipe nationale. Thomas, à toi, est-ce que tu as ton Belge de la semaine ?
Ouais, peut-être un peu étonnant, mais j'ai envie de mettre en lumière Karl Ofkens.
Ofkens.
Parce que il est, alors on en a parlé la première émission. Il était en difficulté au Standard. Il avait vécu des moments difficiles à Bruges, même s'il a sorti le club de la poule en Ligue des Champions, ce qui était quand même pas rien, quand même.
Mais exceptionnel.
Ouais. Mais le mec se retrouve dans. Moi, je veux bien qu'on tape sur tous les coachs du monde, mais le mec se retrouve quand même dans une situation exécrable. Il y a eu des articles cette semaine dans des journaux norvégiens et qui ont été repris, je crois, par la RTBF, où on parle de la potentielle faillite du Standard s'il ne se réveille pas. Donc, vous êtes coach dans cet environnement, et en plus de ça, du coup, vous perdez vos 2-3 meilleurs joueurs, pour ne pas dire plus. L'ambiance autour du club... je mets quand même au défi n'importe quel coach de s'en sortir. Et du coup, moi, j'ai un coach moi-même, j'ai un peu envie de le soutenir parce que ça ne doit pas être facile. Et avec Yaya Touré en coach adjoint, je ne pense pas qu'il lui tire dans les pattes, mais la pression doit être forte pour lui. Parce que derrière, on sait qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la place.
Ouais, il peut faire figure de fusible. Alex.
Je suis d'accord avec Thomas, mais il signe en connaissance de cause aussi dans le club. Donc. C'est un rôle ingrat, c'est une position ingrate, comme Edouard Steele à Courtrai, malheureusement, on en a déjà parlé aussi.
Mais est-ce qu'il sait vraiment que le club est au bord du gouffre ?
Sportivement, quand même un petit peu. Mais bon, ça, c'est, tu le sais, je connais des entraîneurs qui ont refusé le Standard pour ces raisons-là.
Mais tu dis, en connaissance de cause, on ne sait pas ce qu'on lui a présenté comme dossier.
Je connais un coach qui a signé Anderlecht il n'y a pas si longtemps, qu'on lui avait promis Monts et Merveilles, qui a dû partir en octobre.
Ouais.
C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ce qu'il a vu en arrivant était ce qu'on lui a promis sur papier.
Non, mais c'est ça. Mais je pense que en toute connaissance de cause, tu as signé quand même le standard. Les 777, ils ont l'année passée, tu as un coup de bol avec Della. Tout le monde t'attend au tournant. Là, c'est l'année de la confirmation de l'année. C'est quand même assez compliqué de refaire la même chose qui était déjà aux yeux de tous les supporters du standard exceptionnel. Et là où 777 aurait dû investir dans des joueurs, ils ne le font pas du tout. Donc
Nick Nagelberg.
Ça n'aide pas. Mais non, je pense que Sam voulait que je dise ou parle de mon badge de la semaine. Oui. On ne s'est pas concerté avec Thomas, mais moi, c'est Anne Van Azenbroek.
Ah,
ben. Pourquoi ? Bon, il y en a peu qui l'aiment. Hein. Purple Rain, comme la magnifique chanson qu'on connaît. Ou c'était Purple Rain, je ne sais plus. Il se retrouve en tête avec la Gantoise à cette première trêve. Il a qualifié les Gantois en Conference League, ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait trois tours préliminaires.
Oui, ils ont eu un vrai.
Il y a eu le rachat du club par Sam Barrow, un investisseur flamand, qui a créé des remous aussi. Mais il a quand même réussi à motiver, à concentrer ses troupes et à les sortir, un, de la phase qualificative, deux, du championnat. Ils sont premiers aujourd'hui et ils sont en Conference League avec un match sympa en Israël bientôt. Donc, chapeau à Hein.
Chapeau à Hein et on parlera en deuxième partie, évidemment. Ouais, Thomas.
Et il a gardé Orban et Kuiper. Ouais.
Encore tout à fait fini, mais...
Ouais, mais les cinq grands championnats ont fermé leur mercato, donc à part l'Arabie Saoudite.
Eh bien...
C'est pas l'entraîneur qui garde, c'est l'entraîneur, il veut garder tout le monde.
Ouais. Tu me fais une passe décisive, Thomas, puisque moi, mon belge de la semaine, il vient de signer. Non, il n'a pas encore signé, mais enfin, il est tout proche. L'encre et le stylo ne doivent pas être loin du contrat. C'est Yannick Carrasco, pour deux raisons. Bah déjà, il a signé, ou il n'a pas signé, mais se dirige vers l'Arabie Saoudite. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 30 ans. 30 ans, est-ce que c'est le bon âge déjà pour partir en Arabie Saoudite? Surtout qu'il part, il doit s'engager à Al-Shabaab. C'est un club saoudien, certes, mais ça n'est ni Al-Hilal ni Al-Nasser. J'ai regardé un petit peu sur Transfermarkt l'effectif. Je dois dire qu'à part Ever Banega, qui a 35 ans et qui a déjà fait son temps en Europe et qui doit pas être au niveau qui était le sien, le reste de l'effectif fait pas rêver vraiment. Donc il va sans doute évoluer au sein d'une équipe moyenne face à des mastodontes qui se constituent à gauche à droite. Alors il faut dire qu'Yannick Carrasco, c'est un peu maintenant le spécialiste des destinations exotiques, puisqu'on se souvient qu'il avait fait quasiment deux saisons, une grosse saison et demie en Chine. Alors, moi j'ai pas de jugement sur le choix personnel des joueurs, il a 30 ans. Il fait ce qu'il veut. Après je trouve que chacun est libre de faire ses choix. Il avait déjà fait ses choix, sans doute pas pour des raisons sportives, d'aller en Chine il y a un certain temps, donc c'est pas étonnant. Mais non, je m'interroge plus sur les conséquences que ça peut avoir sur les Diables Rouges, parce que avec le retrait d'Hazard, avec Mertens qui est plus là, avec à court terme en tout cas Kevin De Bruyne qui est blessé, ça va manquer de cadre quand même beaucoup. Alors je crois que Tedesco a pas fermé la porte, il reste sélectionnable, mais s'il a la même idée que Didier Deschamps, par exemple, qui a pas sélectionné Kanté, mais en disant bah, il peut être quand même sélectionnable, mais on va voir, parce que jouer dans un championnat qui a un niveau moyen, c'est pas idéal pour la sélection. Bah voilà, il a fait son choix personnel. De toute façon, il va pas non plus choisir en fonction de sa sélection, en se disant de Tedesco, en disant si je vais là-bas, bah c'est mauvais pour la sélection. Mais voilà, c'était juste ma réflexion, c'est-à-dire de me dire que ben voilà, l'équipe de Belgique va être peut-être déplumée d'un autre de ses cadres. C'est peut-être le bon moment aussi pour tourner une page.
Il n'y a personne qui prétend que la Belgique va gagner le prochain Euro ou la prochaine Coupe du Monde, donc ça va, on est tranquille.
Voilà.
Mais est-ce qu'il a jamais été vraiment un cadre? Il était souvent disputé quand même.
C'était pas un titulaire indiscutable, mais enfin ça reste dans le système avec les pistons. Il a été.
Bon, après pour les Diables, on a parlé de Doku juste avant. C'est à ces joueurs-là de prendre le relais. Peut-être à De Ketelaere, si ça marche à Atalanta, de prendre une nouvelle dimension. On le sait, les joueurs, ils vieillissent, ils partent. De Bruyne sera pas là 30 ans, donc. Voilà, c'est aux jeunes aussi de prendre la place.
Exactement. Et bien sûr, ces belles paroles, je vous propose qu'on attaque le premier dossier, la Jupiler Pro League, la sixième journée. Alors, comme vous le savez, vous vous en souvenez, les équipes européennes n'avaient pas joué la semaine passée, et on le verra en deuxième partie d'émission. La décision de la Pro League a été assez bonne, puisque cet aménagement du calendrier pour permettre de mettre toutes les chances de la Belgique de son côté pour la qualification a payé. Et alors, pour le retour des Cadors, je dirais, c'est un week-end royal auquel on a eu droit, avec des chocs un peu partout. Et comme Henri est là, on va commencer parler d'Anderlecht, qui était opposé à Genk. On sait sans se concerter, mais avant l'émission, on parle un petit peu. On s'est dit que c'était pas le meilleur des matchs, loin s'en faut, de la journée. Genk recevait donc Anderlecht, et le match s'est terminé sur un score d'un but partout. Anderlecht passe tout près d'une cinquième victoire consécutive, puisqu'ils ont pris un but à la 97e minute. Vraiment. Quelle est ton impression, Henri?
C'est frustrant, évidemment, de prendre un goal à la 97e minute, mais ils se sont exposés à ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis à l'abri en jouant pendant 75 minutes, je pense. Ils ont joué à 11 contre 10. Ils marquent, ce qui est le plus dur à faire dans ce genre de match. C'est une équipe qui était resserrée, mais qui jouait quand même le jeu. Et puis, je comprends pas ce qui s'est passé. Ils doivent ou tuer le match, ou maîtriser, ou l'endormir. Ouais. Mais ils se sont fait avoir à 97 minutes. C'est une faute professionnelle. Point.
Ouais, et puis surtout que je crois qu'une poignée de secondes avant, peut-être une minute avant, ils passent déjà tout près de prendre l'égalisation. Donc on se dit, la dernière salve est passée.
Ils perdent la
balle au milieu de terrain.
Je sais pas, on a un coach ici. Excusez-moi, je trouve que il doit se passer quelque chose quand l'équipe adverse se retrouve à 10 après un quart d'heure. J'ai pas senti de changement dans les mouvements, dans le fond de jeu, d'Anderlecht, et dans la volonté de tuer le match.
Et ouais, ils se sont pas vraiment adaptés au fait que l'équipe d'en face. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'équipe marqué, à 10 qui doit s'adapter, et du coup ils font les efforts.
Je pense aussi qu'il a. Alors, parce que c'est vrai, c'est juste Genk a pas eu peur. Genk a continué de jouer, d'attaquer. Et je ne sais pas pour quelle raison. J'ai l'impression qu'il a continué de craindre peut-être Painsil sur le côté droit, sa vitesse, sa capacité de percussion. Mais Anderlecht, oui, aurait dû attaquer bien avant, aurait dû presser beaucoup plus haut. Maintenant, alors c'est ce qu'on disait. Après, c'est aussi un nouveau groupe. Le terrain, il y a
d'automatisme.
9 nouveaux joueurs comparé à la saison dernière. On pourra quand même poser la question de Dreyer, qui ne sert absolument à rien. Il faut être quand même honnête. Non, mais Amouzou est sur le banc. Amouzou n'est pas un mec décisif. Il ne marque pas beaucoup de buts. Mais je suis désolé, quand il s'agit de prendre la profondeur ou créer l'incertitude chez l'adversaire, il y a un monde avec Dreyer. Dreyer, à ce poste, peut-être qu'il est très bon au milieu, peut-être que... Mais alors, à ce poste, il ne sert à rien. Et on sait qu'il ne jouera pas au milieu, parce que Léonie est plus fort, Ritz est plus fort, et Delaney, de toute façon, est plus fort.
Et plus cher. Mais quel but d'Amouzou, hein, d'ailleurs. Il est rentré, il est monté au jeu.
Un but magnifique.
Et un but magnifique.
Est-ce que la frustration de commencer sur le banc...
Peut-être, ouais. Il y a des joueurs qui...
Puis dès qu'on le lâche, il...
Il y a des joueurs très bons en sortie de banc à chaque fois. Hein, et son profil fait que c'est un mec qui est très...
Percutant.
Percutant, c'est un dynamiteur. Face à des adversaires qui ont déjà défendu pendant 60 minutes, et ça peut faire vite la différence.
Et on faisait remarquer que Genk, qui a eu quasiment que des déconvenues, en tout cas depuis le début de la saison, avec les qualifications loupées pour la C1 puis pour la C3, finalement se qualifier pour la C4, ils avaient déjà 11 matchs dans les pattes contre 5 seulement. Anderlecht, c'était le 6e match
en semaine en Turquie, avec des prolongations, des pénalties, un voyage. Anderlecht avait toutes les cartes en main.
Toutes les cartes, mais c'est vrai que d'un côté, il y a un groupe qui se connaît bien, qui était certes un peu plus fatigué, face à un groupe qui est en bonne... qui a de la fraîcheur, mais qui connaît énormément de
nous. Ce qu'il y a souvent, c'est que les points ou les bons résultats, c'est-à-dire mathématiques, cachent des problèmes, parce que Anderlecht a gagné, donc a fait...
Oui, tant qu'on regarde...
Il a fait 4 victoires d'affilée, mais c'est des 1-0, des 2-1, des 0-1, enfin ça n'a jamais été...
C'était pas net, il y a toujours quelque chose à redire.
Quand, quand tu gagnes, tu vois moins les carences.
C'est vrai.
Le standard, pour parler de lui, c'est flagrant, on voit que ça ne tourne pas. Ça...
Oui, et puis là, les résultats, mauvais résultats font qu'on on voit justement, c'est mis en lumière.
Mais la fatigue en milieu de semaine, moi, c'est pas un truc auquel j'adhère beaucoup. Parce qu'en fait, si on demande à tous les joueurs de foot du monde, ils préfèrent jouer parce que pour beaucoup, ils détestent, enfin, c'est pas qu'ils détestent s'entraîner, alors c'est très bien comme métier, etc. Mais si vous demandez à Vertonghen s'il préférait pas jouer le mercredi ou le jeudi plutôt que d'aller à l'entraînement à Nerped, il préfère tout jouer. Donc, je pense qu'un joueur de foot professionnel aujourd'hui, jouer tous les trois jours, ça va.
Oui, et puis peut-être qu'en début de saison, encore moins. Enfin,
ça dépend encore, je suis d'accord. Il préfère jouer que s'entraîner, mais le problème n'est pas là. Le problème d'un joueur professionnel aujourd'hui, c'est des matchs en déplacement et relativement loin. Donc, en championnat, il n'y a pas trop de soucis. En Europe, ça dépend ce qu'on joue. Mais un joueur qui joue l'Europa League le jeudi, donc il part le mercredi matin. Ils jouent le jeudi soir. Souvent, ils rentrent la nuit, 4, 3, 4, 5 heures du matin. Ils ont un petit peu de repos. Ils doivent s'entraîner le vendredi soir. Ils s'entraînent le samedi. Il y a match le dimanche. C'est cette fatigue physique et psychologique, parce que tu ne vois pas ta femme, ta famille pendant 3 jours. Tu rentres très tard. T'es très déphasé et décalé. Ouais, c'est cette fatigue-là qui joue le dimanche et qui crée des problèmes le dimanche.
Mais Wrangel a bien géré son noyau, parce qu'il a fait commencer 5 titulaires qui n'étaient pas titulaires en Coupe d'Europe.
Ça, je dis pas.
Et ça n'a pas déforcé l'équipe.
Mais il y a un problème psychologique à Genk qui n'a rien à voir avec la fatigue de la Coupe d'Europe, même si aller jouer en Turquie sous 39 degrés et jouer des prolongations en prime, c'était pas un cadeau. Il y a un mal-être dans le noyau de Genk, et la carte rouge le démontre aussi. Et ça, c'est de l'année passée, cette saison exceptionnelle. Tout juste pas ponctué d'un titre qui touchait le trophée, pour ainsi dire, et on leur a ôté des mains. Et tu as le même entraîneur, tu as les mêmes cadres, tu as une équipe fort similaire à part 2-3 départs. Ça pèsera encore sur cette équipe.
Mais on est en haut du classement.
Mais, pour conclure. Mais peu importe. Voilà, donc un match qui restera pas dans les mémoires pour la qualité du jeu, mais voilà, qui aura permis à Anderlecht d'enchaîner en tout cas un cinquième match sans défaite,
c'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, et de comptabiliser un nombre de points important à ce moment de la saison. Hein. Comment ?
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de...
C'est une série comme ça.
Une série comme ça, et ils sont...
Elle n'est pas passée, c'était 5 matchs sans victoire, hein. Si pas plus.
Et donc pour l'instant, ils sont deuxième à égalité de points, mais avec un match en plus, à égalité de points avec la Gantoise. Et écoutez, si justement, on parlait de la Gantoise. La Gantoise qui recevait le club de Bruges, la bataille des Flandres, victoire de la Gantoise 2-1. Et je te propose, Thomas, tiens, puisque tu as voulu parler.
C'était le meilleur match de l'après-midi.
Ouais.
Hein, ce que je disais avant l'émission, on a eu une après-midi qui a commencé avec un très bon match, avec beaucoup de suspense, de l'intensité, et on a un peu descendu jusqu'au match d'Anderlecht. Peut-être que Charleroi-Saint-Rouen était un peu mieux. Oui, mais en termes de suspense, dynamique, etc. Mais ce Lagantoise-Bruges, c'était vraiment le choc peut-être des deux meilleures équipes du championnat, selon moi. Mais je pense que Lagantoise, je disais juste avant, a peut-être la meilleure attaque du championnat. Parce que Orban, vous avez Ong, vous avez De Kuyper. Juste derrière, vous avez quand même des mecs de très très grande qualité. Vous avez un coach qui a quand même de la bouteille. Ouais, on dit souvent la Gantoise, pas beaucoup de titres, etc. Moi, cette année, on verra après la trêve, on va laisser 2-3 journées pour voir s'ils peuvent s'installer comme ça. Quand on voit leur potentiel offensif, c'est un des favoris, pour pas dire le favori cette année.
Ouais, et puis il y a Brown sur le côté qui a fait des misères, qui a sans doute peut-être était là. L'origine de la blessure de Buchanan, en tout cas, c'est sur une accélération de Brown que Buchanan a essayé de reprendre, qui se blesse derrière la cuisse.
Ouais. Mais Thomas a raison sur l'ensemble. Gand est avec Bruges, et je rajouterais même l'Antwerp, parce que je trouve leur force physique et de caractère très impressionnante. Donc pour moi, c'est ce top 3. Normalement, tu auras ce top 3, et je n'exclus pas Anderlecht, j'aime pas le dire, mais je pense que s'ils vont encore chercher des joueurs, on en parlera après. Je pense qu'Anderlecht est un outsider très dangereux pour le sacre final.
Waouh.
Parce qu'il y a les play-offs.
Et sur le.
Si t'es pas en play-off 1 et que t'as investi, il vaut mieux arrêter tout de suite. Hein. Enfin...
Liquidation.
Non, il y a 6 équipes en play-off 1.
Sur 16, ouais.
Ouais, enfin, 6 sur 16. Si t'y es pas avec ces investissements, ils peuvent aller jouer au au parc de Nerpé alors. Mais...
Et alors sur le match et sur l'équipe de Bruges d'hier.
Bruges a une décompression suite au résultat précédent et à ce match de Sassouna de jeudi qui psychologiquement, je pense, leur a vraiment donné une décompression. Pff, on a accédé, on a réussi, on est revenu d'une position de mort-vivant. Et voilà, Gand, voilà, c'est pas facile, mais c'est pas grave. J'avais plus cette impression-là quand je les voyais sur le terrain. Après, voilà, c'est un match.
Oui, si, disons que...
C'est pas un drame.
Ça arrive. Bah, c'est déjà pas 6-1, donc c'est pas mal.
Et pareil, hein, c'est une équipe qui a un nouveau coach, qui a une nouvelle équipe, enfin, pas complètement une nouvelle équipe, mais bon, il y a De Kuyper, il y a... Le Jout Club a beaucoup joué la saison dernière.
Lui, il revient, il y a
Zinkernagel. C'est une philosophie de jeu qui est quand même complètement différente. Bon, bah, il faut laisser tout ça s'installer.
Il est ressorti Boyata des oubliettes.
Ben, j'aimerais bien le remettre aux oubliettes, hein, parce que vu son match.
Ouais, pas un match terrible. Bon. Du côté de Gand, par contre, Hang met un doublé. Il est très prompt sur. C'est le premier but où il chippe la balle de. C'est Onyedika, qui fait un mauvais contrôle. Enfin, la balle lui tombe sur le pied.
Passe de merde. Et après, il fait un contrôle tout aussi pourri. Scandaleux. Ouais. Pour un joueur de son niveau, c'est scandaleux ce qu'il a fait.
Et puis, il réagit
ça
pas
arrive
en plus.
Chez les pré-minimes ce qu'il a fait là. Hein, donc,
ouais. Et Hang est prompt à le passer dans son dos, enfin, à venir prendre le ballon devant lui. Et à bout portant.
On ne citera pas Thierry Roland. Hein.
Non.
Oh, il faut savoir pour la petite histoire, c'est un joueur qui quitte Gand ces jours-ci et qui va en Corée pour des jeux.
Les joueurs coréens. Il y a le même avec Kang In-Lin à Paris qui doit faire ça pour éviter son service militaire.
Son l'a fait.
Heung-min Son a dû faire ça aussi.
Ah oui, on se souvient que Son, il avait eu une grosse pression même parce que s'il se qualifiait pas, c'est ça, c'est pour les qualifications pour les Jeux Olympiques.
C'était 2 ans de service militaire, je pense.
Ouais. Sinon, il doit faire une activité en Corée pour éviter le service militaire qui, en Corée, c'est 2 ans.
Bon. Donc, c'est pas à prendre avec des baguettes.
Voilà, on n'a pas vraiment évité Thierry Roland. On n'était pas très très
merci
loin.
Alex.
Van Aken, un but à la Van Aken, bien placé. La balle, c'est impeccable, j'ai trouvé.
Je me souviens plus de son but, par contre, sa réaction après. C'est une tête, c'est un but à la Van Aken. Sans trimer la tête, décroisé, voilà, c'est du Van Aken tout craché. Par contre, après, le gars qui est mou comme un moelleux au chocolat.
C'est marrant.
Et
le
mec, il a été provoqué, les fans de la Ganta, je savais pas ce que je voyais. Donc je me dis, Deyla, il a dû il a mordu, il lui a fait quelque chose, il lui a refilé la rage. J'ai jamais vu Van Aken aussi actif, lui.
Mais c'est bien, ça amène un peu d'animation au championnat. Même le buteur de Tolu. En égalisant contre Anderlecht, il va faire le signe j'entends rien aux supporters d'Anderlecht. C'est bien, c'est un peu, ça fait partie du foot, du folklore, les rivalités, les tensions. J'entendais sur Eleven là, pendant les matchs, oh, c'est pas fair play, machin.
Ouais, c'est pas.
Tolu, on ne le connaît pas, mais Van Aken, ça fait 10 ans qu'il est là.
Oui, c'est vrai que c'est pas le plus polémique.
Ah oui, non, c'est.
Ma grand-mère disait pour ce genre de. C'est pousse-moi que je tombe. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Il est mou. Et là, j'étais hyper étonné, effectivement, quand il a marqué son but, qu'il vienne haranguer les supporters.
D'habitude, il a une tension de 4,5.
C'est
et
ça.
Là,
quoi, il était bien énervé. Effectivement, une défaite, mais une défaite face à la Gantoise, c'est pas honteux. Comme on dit, tout le monde n'ira pas.
Tout le monde ou personne?
Je sais pas. Je dis pas que personne n'ira gagner à Gand, mais en tout cas, ils seront nombreux à venir se casser les dents. Et donc là, une défaite 2-1, qui est pas scandaleuse et qui remet rien en cause du côté brugeois. On va passer maintenant au champion. L'Antwerp qui se déplaçait à l'Union Saint-Gilloise. 2-2. Très beau spectacle, c'était effectivement pas du niveau de la Gantoise Bruges, mais c'était un très beau un match, comme d'habitude, un peu avec l'Union, il y avait l'ambiance. Il y a eu des pénalties.
Ah oui, forcément.
Ben vas-y, alors qu'est-ce que tu en as pensé?
J'ai pas vu. Je ne sais pas penser beaucoup. J'ai vu le résumé hier soir, peut-être comme beaucoup de monde. Après voilà, il y a...
Antwerp efficace.
C'est des pénalités. Je pense qu'ils ont marqué plus de buts sur pénalty que des buts dans le jeu cette année. Donc c'est
un problème.
C'est d'habitude, ça arrive de l'autre côté de Bruxelles, quelque chose comme ça. Mais
c'est vrai.
Il faut croire que ça.
Non, parce
que
de l'autre côté de Bruxelles, on rate les pénalties.
Hein? Oui, non, ça, il y a une période, André, qui recevait des pénalties. Je pense qu'il y avait un coup de vent dans le rond central, il y avait pénalty. Et après, il y avait des pénalties ratées. Mais voilà. C'est comme quoi tout change dans le foot, tout évolue.
Ceci étant, moi, j'ai vu le match, pour le coup.
Il y avait pénalty.
Non, mais c'était. Alors. Pour moi, c'était un match typique Antwerp-Van Bommel. Une équipe quand même assez froide. Même si je trouve que sur les côtés, notamment côté droit, ça manque d'un joueur offensif, ça manque de qualité. Parce que ce soit Kerk ou les autres, je trouve pas ça dingue. Janssen, je trouve que c'est de plus en plus moyen. À l'Union, ça continue de marquer des buts. Et c'est la philosophie de Blessing. J'avais dit la première émission, hein, on a les fondations de Mazzu, que Gerhard s'est adapté et que Blessing adapte encore. Par contre, je trouve que c'est une équipe qui concède beaucoup plus d'occasions et qui encaisse beaucoup plus de buts que la saison dernière. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Parce que pendant longtemps, on m'avait expliqué que Machida, c'était un crack absolu et qu'il était meilleur que Van der Heijden. Moi, je trouve que Machida est très offensif et que dans le système à 3 derrière, il laisse beaucoup d'espace dans son dos. Et que quand les adversaires savent en profiter. Et moi, McAllister, j'attends de voir sur le long terme. Pareil, il vient d'un autre continent, le temps de s'adapter à Bruxelles, au climat européen. Mais quand on me vend un joueur comme un gros tackleur, je suis jamais très positif parce que parce que moi on m'a toujours appris, en tout cas quand je jouais ou quand avec mes formateurs coach, on m'a toujours appris qu'un bon défenseur c'est un défenseur qui tacle pas ou voilà. En tout cas qui tacle le moins possible.
Laurent Blanc.
Oui, Laurent Blanc, mais à Paris on a su Thiago Silva qui taclait quasiment jamais. Et pour ceux qui ont vu le match PSG Lyon hier, Marquinhos ne tacle jamais. Alors, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait un bon match pour le coup. Donc,
Ouais, c'est longtemps qu'il n'avait pas joué. Mais il y a le contre-exemple. Moi j'ai vu une super petite aparté, super clip sur Franco Baresi. Alors il jouait debout aussi, mais quand il fallait y aller, c'est vrai.
Attention. C'était pas le même. La position n'est pas du tout la même. Mais après, Thomas est adepte d'un beau football soigné aussi. Et McAllister vient d'Argentine. Non, ouais. c'est autre chose. Je peux dire des matchs en Amérique latine, même si c'était au Pérou, le tagle, c'est le pied à la hauteur du genou de l'adversaire et il n'y a pas de faute. Hein. Donc c'est autre chose.
La stabilité défensive, je pense qu'il va devoir travailler là-dessus un moment ou un autre parce que ça peut lui poser des problèmes. Et j'étais au stade contre Lugano. Alors, c'était au match aller. Hein. Donc 2-0, mais à 1-0 pour l'Union, il concède quelques occasions et Lugano peut revenir. Hein. Si ça fait 1 à la mi-temps, il n'y a pas non plus de scandale. Donc ils vont vraiment devoir travailler là-dessus. Et pareil, sur leur côté, ils ont Lapoussin et Thérault, qui sont deux joueurs offensifs. Ouais, là ça. Où Lapoussin, Newcop, c'était plus équilibré, parce que Newcop avait quand même beaucoup de volume pour faire les allers-retours.
Oui, c'est pas Lapoussin qui va aller courir. Ouais,
attention, Lelo revient, quand on lui demande de revenir, il le fait. Dans un bon jour, il défend très très bien encore. Hein, donc,
ça reste un joueur porté vers l'avant.
Oui, non, tout à fait. Bah, ici, Thérault aussi, c'est un milieu de terrain de base. Donc,
oui, c'est pour ça.
Après, j'étais surpris que l'Antwerp repasse au-dessus et remène 1-2. Parce que, comme tu dis, l'Antwerp, déjà l'année passée, c'était pas foudre de guerre, mais ils y sont à chaque fois. Quoi.
Ils sont là.
Mais c'est une erreur aussi de marquage. Le premier but de l'Antwerp est fabuleux.
Il faut encore aller chercher. Hein.
Mais voilà, et sur le deuxième
but de l'année passée, il y avait des erreurs de marquage, en veux-tu en voilà chez les adversaires, et ils n'étaient pas foutus de mettre au fond. Donc. Il faut encore le faire.
Le premier but de Sam Vines, une frappe exceptionnelle. Alors, Maurice avait fait une super sortie pour venir stopper l'offensive. Le ballon lui revient un peu sur le côté, à l'entrée de la surface, ou un peu à l'extérieur plutôt de la surface. Et il a mis une mine intérieure du pied gauche qui est allée dans la lucarne. Super frappe. Et le deuxième but, Kellen Kamp, lui, était au bon endroit, au bon moment. Ouais. Et comme tu disais, ils ont su en profiter pour marquer.
On va voir peut-être que l'équipe va aussi se rééquilibrer avec Castro Montes. Encore que c'est un joueur aussi très offensif. Et il faut aussi noter que Balikouchin a quand même bien mangé la feuille. Au parc du Den, hein, quand même.
Ouais.
Je sais pas, il s'est emmêlé les pinceaux. Et...
Ouais, plusieurs fois.
Il est parti tout seul.
Alors que je pense que c'est quand même un des très bons joueurs du championnat, mais sur le dernier geste, je pense qu'il doit faire mieux, régulièrement.
Inter devait tuer le match à un moment aussi. Ils ont eu deux face à face, seuls face à Maurice.
Ouais. C'est encore 2-1 à ce moment-là.
Qui n'était pas parti en refaire un autre. Donc, petite blague pour les pubs.
Wow. Est-ce qu'on parlerait un petit peu, sans faire trop de mal à Steve s'il nous écoute, du Standard qui a concédé le partage 1-1 face au RWDM.
Ils n'y arrivent pas.
Ils n'y arrivent pas, c'est difficile. Hein, c'est compliqué.
On a déjà parlé dans la saison précédente, c'est la dynamique quand tu es dans une dynamique tellement négative.
Ouais.
C'est très très dur.
Et tu perds Donum à la fin du mercato, c'est donc tu as perdu Zinkernagel, tu as perdu Donum, tu as perdu ton coach, ton club est au bord de la faillite.
Et bah, t'es 14e après la 6e journée,
t'as 3 points. Ça va commencer à chauffer. Alors la trêve tombe peut-être bien parce que ça permet de remettre l'église au milieu du village, je dirais, mais franchement.
Comparaison n'est pas raison, mais quand j'ai vu Charleroi, c'est un peu plus J'ai l'impression qu'ils ont plus joué de malchance.
Oui, c'est ça, Charleroi, depuis le début de saison, ils ont des occasions. Et c'est Charleroi.
Ils font un déclic et ça va aller. Le standard, tu ne vois pas. Tu vois pas le bout du tunnel, quoi. Tu vois pas.
On sait que le public à Charleroi peut être dur, mais on sait que Bayat, il va faire confiance à Mazou de toute façon. Bayat, c'est pas le genre à virer son coach. Ça lui est arrivé très rarement. Alors qu'au standard, on sait que encore deux matchs comme ça avec les supporters, ça va être très tendu. Hein.
Ouais.
Et même pour les propriétaires d'ailleurs.
Je me demande si les supporters n'ont pas la présence d'esprit de se dire, c'est les propriétaires qui sont les fautifs plutôt que le coach.
J'espère, mais c'est ce que j'ai dit au début, moi je pense que c'est le cas.
C'est ce qu'ils ont mis en tribune.
Oui, c'est le cas.
Bon, mais ça, ouais.
En tribune, il y avait des banderoles, pas d'argent, pas d'ambition. Donc je pense qu'ils ont conscience.
Il y a quelqu'un qui doit se faire avoir dans l'histoire. Hein, donc,
Ce sont les supporters. Les supporters du standard,
ça,
en tout cas.
C'est les premiers, après.
Qui ont payé leur abonnement.
Ouais.
Ils vont se venger d'une manière ou d'une autre, enfin, entre guillemets. Mais...
Effectivement, les pauvres, on leur souhaite bien du courage. Le Cercle de Bruges, c'est la bonne surprise non, du début de saison. Victoire 2-1 face à Westerlo. Et les Brugeois sont devant les autres Brugeois. Alex, un petit mot là-dessus ?
Oui, je pense que leur coach fait de l'excellent travail. On l'a déjà vu l'année passée. Et il continue. Et ça, il a quand même perdu Charles Van Hout, qui est un cadre, ou qui était l'année passée, et qui prouve à l'Union, justement, qu'il est, d'après moi, en devenir un des meilleurs joueurs belges de notre championnat. Mais après, voilà, le Cercle, je pense qu'ils ont eu un début de championnat assez aisé aussi. Donc,
on doit le
recadrer, mais ce sera intéressant de voir dans la continuité si peut-être ça sera le Cercle qui sera cette sixième équipe un peu surprise dans les playoffs. Hein.
Aussi pour ces clubs-là, les points pris maintenant, hein. On le voit dans tous les championnats. En début de championnat, une surprise qui est en haut. Puis souvent, ces clubs-là peuvent être en difficulté en deuxième partie de saison, mais les points pris au début leur permettent de se sauver. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour le Cercle. Je pense qu'ils ont de quoi faire mieux que jouer le maintien. Mais tous les points pris maintenant leur feront du bien s'ils ont un gros coup de mou à l'hiver.
Mais disons que le Cercle, Eupen, Courtrai, OHL, Malines, STVV... ce sont toutes des équipes qui sont pressenties pour terminer dans le flop 6 ou le bottom 6 du championnat. Et
il y en a beaucoup. Ils ont quand même eu un calendrier léger.
Oui, hein. C'est quoi ce que
j'ai eu l'Union, mais à part ça, c'est...
Standard.
Westerlo, Standard, ils ont joué Charleroi déjà.
Oui, donc... Mais en attendant, ils ne sont plus dans cette zone dangereuse. Et les quatre derniers, ça joue les play-downs. Et pour l'instant, il n'y a pas de Cercle, il n'y a pas de Louvain, il n'y a pas de Malines là-dedans. Donc, et Eupen non plus. Donc...
Pour l'instant, c'est effectivement quatre équipes qui ont, elles, joué leurs 6 matchs, et c'est Charleroi, le Standard, Westerlo et Courtrai. Et comme vous le disiez, et pour le Cercle, et pour Malines, et même et pour Eupen,
septième pour
Anderlecht. Voilà des équipes qui sont bien inspirées de prendre les points maintenant. Eupen a perdu ce week-end, justement, face à Malines, mais voilà aussi une équipe qui fait un bon début de championnat et qu'on n'attendait sans doute pas... après 6 journées, être bien placé. Mais bon, voilà, le calendrier fait quand même que influe beaucoup sur ce début de championnat. J'ai l'impression qu'il y a quand même une très très grosse densité, beaucoup d'équipes qui peuvent, surtout avec un play-off à 6, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre y participer. Je sais pas si c'est pas il y a plus le Bruges d'il y a 2 ans peut-être ou 3 et plus, et effectivement la Gantoise s'impose ou se a l'air d'être peut-être une des équipes les plus compétitives de la saison, mais sinon tout le reste se tient, je crois, non?
Oui, non, mais tout le monde peut battre tout le monde, hein, on le voit, même pour les équipes du bas de tableau, c'est jamais facile d'aller les jouer. Donc mais c'est aussi le côté championnat à 16, hein. On resserre un peu l'élite et donc tout devient plus compliqué. Et ça ne serait pas étonnant d'avoir une surprise en bas du classement. Hein. L'Allemagne est le championnat par excellence où tous les ans, vous avez un énorme club avec des stades avec 40 000 personnes qui descendent. Hein. Donc attention à ça pour un club comme le Standard, par exemple, ou même Charleroi, si ça ne s'encloche pas, même si je pense qu'ils jouent plus de malchance. Et pour l'instant...
Oui, c'est vrai qu'en Allemagne...
Mehdi l'a dit après le match.
Des Hambourg ou des Mönchengladbach qui peuvent descendre, ça arrive.
Il y a eu Gladbach qui a joué le match de barrage, mais t'as Hambourg qui est passé Hambourg, à la trappe, ouais. Stuttgart, Hertha Berlin, Nuremberg, Schalke, il y en a. Il y a des. D'ailleurs, c'est pas compliqué. En la Bundesliga, 3 des 5 équipes qui drainent le plus de supporters et qui ont la plus haute moyenne de supporters à domicile, tu as le Bayern, tu as Dortmund, et derrière, c'est Schalke, Hambourg, et de mémoire, Berlin. Et trois équipes sont en D2 aujourd'hui.
Ouais.
Et elles drainent ses supporters en D2.
Ouais,
c'est le stade de l'année passée, mais ça sera toujours correct.
Et bien voilà, je pense qu'on a été complet sur la première ligue, la Pro League, la Jupiler Pro League, et pas la Jupiter Pro League, comme j'ai vu dans un post qui annonçait la signature à Marseille de Murillo, en disant joueur excellent en arrière de la Jupiter Pro League.
C'est un transfert qu'on n'a pas vu venir.
Ouais, c'est vrai.
3 millions, je pense.
Ouais,
même à Marseille, ils l'ont pas vu venir.
Je pense qu'ils ne savent pas tellement de quoi il s'agit.
Mais ils le verront bientôt.
En tout cas, voilà, on a terminé pour le dossier Jupiler Pro League. On va bientôt parler. On va parler maintenant marketing un petit peu. On va parler sport et on va parler sport et marketing. C'est Sportimize, c'est la minute Sportimize avec toi, Alex. Alors Alex, tu nous avais dit qu'on allait parler football américain, mais pas NFL et tickets.
On va parler football américain. Et effectivement, il y a la NFL qui est la ligue, je pense, la plus chère du monde, si on se base sur les droits TV, sur le sponsoring et sur le prix des tickets ou même le Super Bowl. Mais en dessous de la NFL, il y a les universités. Donc on n'a pas de centre de formation comme au football en Europe, mais il y a les universités qui produisent des talents et qui permettent aux équipes NFL de faire des drafts qui vont chercher leurs joueurs ensuite. Donc il y a ces universités, elles ont des stades, et il y a certains stades, c'est des arènes de 100 000 personnes qui se remplissent. Et j'ai vu que du côté de Memphis, ils ont lancé une idée révolutionnaire point de vue ticketing. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un ticket à $60, et c'est le ticket Win Together. Je m'explique. La personne qui achète son ticket Win Together l'achète avant le premier match de championnat, et tant que Memphis gagnera tous ses matchs à domicile, ce ticket à $60 restera valable et ils recevront un ticket gratuit pour chaque match pour aller encourager leurs jeunes joueurs, pour aller encourager leur équipe. Et à la première défaite, ça s'arrête et ils devront racheter un autre ticket. On ne sait pas si ça sera encore un Win Together ou un ticket simple, mais en attendant, ils amènent des supporters et il y a cet encouragement et cet incentive pour leurs supporters. Alors il faut savoir, je suis quand même plongé un petit peu dans les résultats de Memphis et je me suis demandé, bon, peut-être qu'ils perdent souvent à domicile et que l'action marketing peut être rentable, mais non en fait, parce qu'ils n'ont perdu que 5 matchs depuis 2018 dans leur propre stade.
Wow.
Donc c'est une action marketing qui est positive, qui va amener des supporters, mais surtout qui va permettre à leur équipe d'être encore plus encouragée, d'encore plus gagner des matchs peut-être.
Ouais. Sympa.
On peut imaginer effectivement que ça joue sur l'ambiance et le autour du club et que les joueurs aussi sont bien sûr au courant de ça et donc ça fait monter encore l'envie de faire de briller et de gagner. J'espère qu'ils ont bien calculé, j'imagine qu'ils ont calculé leur coût en se disant que et leur coût avec un T aussi à la fin parce que si 60$ c'est pour 10 matchs, ça fait une moyenne de billets pas très élevée, mais s'ils ont drainé beaucoup, beaucoup de supporters et que ça en amène de plus en plus, c'est bien vu.
Oui, mais après, tu fidélises tes clients avec ce type d'action. Ils ne le font pas parce qu'ils ont un taux de remplissage de 98% chaque année. Donc, c'est pour fidéliser pour l'avenir. Et là, à ce moment-là, ton investissement d'aujourd'hui portera ses fruits dans quelques années.
Brillant. Bravo à eux. Et merci à toi, Alex, pour cette minute Sportimize où on en sait un peu plus sur le ticketing, le Win Together. Le ticketing dans la NCAA, le championnat universitaire américain. Là je crois que le jingle est approprié. Il s'agissait vraiment de parler de sous. Je vous propose maintenant qu'on passe au coup de gueule. Voilà, de Thomas. Thomas, on va revenir avec toi sur l'affaire Rubiales, Luis Rubiales, qui s'est rendu coupable d'un geste d'un autre temps, on peut dire ça comme ça, non pas que ce soit excusable, que ça aurait été excusable dans un autre temps, mais en tout cas, voilà un monsieur, le président de la Fédération espagnole de football, qui lors de la remise de la Coupe du Monde féminine à la capitaine de l'équipe d'Espagne, l'a embrassé sans visiblement que ce soit tout à fait consenti et en étant bien bien lourd.
Ouais, c'est ça. Il a donc un peu caché un événement qui aurait dû être très important pour la fédération espagnole, parce que du coup, on ne parle plus Que du baiser non consenti de Rubiales à la joueuse de la sélection. Et on va passer la qualification juridique, hein, parce que qui serait de toute façon une agression sexuelle. Mais moi, je veux aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que Rubiales, après le geste, il a été jusqu'à insulter les gens qui critiquaient ce geste d'idiot dans les médias espagnols, avant de rétro-pédaler, hein, bien sûr, parce que la place au show est très importante, il faut continuer de gagner sa vie. Mais en fait, ça souligne un problème un peu plus vaste. Et vous savez que bon, j'ai travaillé dans le foot féminin en Belgique, et il y a un message qui est quand même important à passer. Et le geste de Rubiales est peut-être le meilleur moment pour le faire. Embrasser une joueuse sans son consentement, le problème, c'est Rubiales. Si un coordinateur ou un directeur sportif commente la tenue d'une joueuse en civil, bah, le problème, c'est lui, c'est pas la joueuse. Si un coordinateur, un directeur sportif, un coach appelle une joueuse fifi, avec un ton un peu condescendant, le problème, c'est lui, c'est pas la joueuse. Et j'ai envie de dire, quand on est président, directeur, coordinateur, coach, on a un devoir d'exemplarité. Pourquoi ? Parce que, et moi, je suis toujours en contact avec des joueuses que j'ai eues il y a 5 ans. Parce que parfois, on devient des exemples, parfois on est des mentors, parfois on reste en contact. Et donc, il faut être des exemples à tout moment. Et que ceux qui auraient ces comportements, mais j'ai envie de dire qu'là, maintenant, ils doivent signer, ceux qui nous écoutent, ils doivent signer la lettre de démission, quitter le club, parce qu'ils auraient dû le faire hier. Parce que c'est vraiment un problème d'éducation, et c'est vraiment très profond. Hein. Ce genre de comportement existe. On a eu des affaires dans le foot français. Dans le foot belge, il en existe, et c'est à un moment, il faut aussi prendre le problème à bras le corps et un peu tailler dans le vif. Et donc, bon, Rubiales, qui s'accroche encore à son poste, mais il faut tout ouais. simplement qu'il démissionne.
Hein. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, un non, c'est un non, N-O-N, donc pas consenti, il n'y a même pas à réfléchir, c'est lui l'idiot, de traiter les gens d'idiots, et en fait, j'ai regardé, il a le même âge que moi à peu près. Quand je disais c'est d'un autre temps, j'en discutais avec Blaise, pour pas le nommer. Je disais, ce qui est fou, c'est qu'un type comme ça, bon, il y a 40 ans, on aurait pu imaginer que les gens fassent ça. Enfin, imaginer, j'ai pas dit admettre ni trouver ça bien, mais ça a pu être dans les mentalités. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre qu'un type dans Mondiovision, il se soit permis de faire ça.
Même il y a 40 ans, enfin.
Non, mais je veux dire, ça aurait été sans doute plus...
Ça aurait moins fait polémique.
Voilà, ça aurait moins fait polémique.
Pas de réseaux sociaux, c'est la seule raison, mais ça ne se faisait de toute façon pas. Après, intolérable, tout ce qu'on veut, on ne cautionnera jamais. Est-ce qu'il n'y a pas un antécédent qui lui a permis de faire ça ? Ou tu crois que c'est vraiment dans the heat of the moment
De ce que j'ai lu...
Lorsque je regarde Thomas, mais... pour ceux qui ne nous regardent pas, mais c'est une question ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas
de
un
ce que j'ai lu, il y a d'autres choses qui vont sans doute sortir. Je n'ai pas été enquêté plus loin, mais...
Peu importe, j'ai envie de dire, à partir du moment où le mec fait ça, et ensuite il va dire aux gens « Ah, oh, mais vous êtes des idiots, vous n'avez pas compris ». Et qu'ensuite il rétro-pédale parce qu'en fait il dit oula, en fait j'ai peut-être déconné, c'est qu'il y a un problème.
Donc,
et dans l'hypothèse où ils avaient eu une relation extra-conjugale, amoureuse, slash tout ce qu'on peut imaginer, est-ce que ce n'est peut-être. Est-ce que là il n'y a pas une clé de la solution de cette situation, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on exclut totalement? Je ne sais pas.
Il
y a deux choses, on va essayer d'expliquer et d'accepter, c'est pas la même chose. Je veux dire, va expliquer son geste par sa culture, par son éducation, par sa personnalité, par son côté paternaliste de la société espagnole qui est encore
ce qu'on veut, mais c'est pas pour autant que c'est admissible.
C'est pas admissible pour autant.
Oui, mais et encore, on parle de la société espagnole. L'Espagne est un des pays qui a la législation la plus dure et la plus progressiste pour ce qui est de défendre les femmes. Et bon, il y a quand même 23 joueurs de la sélection, 23 joueurs de la sélection qui se sont mis en retrait. Imaginez, à la fin de la dernière Coupe du Monde, Messi et consorts, dire bah nous, le président de la Fédé est complètement fou, on se retire.
Mais il n'y a pas un conseil d'administration à la Fédé, il n'y a pas de patron.
Oui, mais on sait comment ça marche. Regardez en France, Noël Le Graët, avec toutes les casseroles, Noël Le Graët est
combien
resté
de temps
en
est
poste
resté,
très très longtemps. Et il a fallu, alors il y avait 10 histoires, pareil, de sexisme, etc. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour que Noël Le Graët saute ? Qu'il ait un commentaire sur Zidane.
Oui, c'est ça.
Mais pour vous dire à quel point il a dit une phrase sur Zidane qui, en fait, on s'en fout, il a le droit d'avoir son avis sur
tout à fait. C'est
mais
le
c'est
moins...
tous les trucs qui étaient avant qui
c'est le moins coupable
sauter,
de tout ce qu'il a fait, ouais, tout ce qu'il a dit. Mais le
après, il y a des personnes à la même à la fédération belge qui ont eu des comportements inadmissibles envers des femmes qui travaillaient là aussi. Et ben, je pense que tu l'as déjà entendu, Thomas. On va pas en parler à l'antenne, mais c'est si ce n'est pas un problème hispano-espagnol, quoi.
Si je ne me trompe, la FIFA a été était clair sur ce coup-là, non?
Oui, c'est vrai que la FIFA est un gage de transparence.
Justement, c'était étonnant. Oui.
Pour une fois, en tout cas, visiblement, la fédération espagnole tortille un petit peu, tortilla. Tortille un petit peu pour prendre des décisions. Visiblement, la FIFA, elle a été plutôt à trancher dans le vif.
C'est un opposant de Rubiales à la FIFA espagnole qui a pris cette décision ou qui a mené la contre-attaque. Donc voilà.
Bon, il s'agissait donc du coup de gueule de Thomas sur cette affaire, cette sale affaire Rubiales. Je me demande d'ailleurs ce qu'on aurait dit si Kylian Mbappé avait été une femme et que le président de la République l'avait câliné comme il l'a câliné à la fin de la finale de la Coupe du Monde.
Je pense qu'il y a plus de chances qu'il ait câliné Noël Le Graët alors.
ce qui est très triste en fait dans cette histoire en plus, par rapport au football qu'on aime tous, c'est que c'est cette équipe espagnole qui fait un exploit exceptionnel.
Exactement.
En étant champion du monde, et on parle quasiment de ça.
Ouais, c'est...
Je trouve ça tellement dommage.
Allez, on va oublier ça et on va revenir au football. Voilà. Alors, toutes les équipes européennes n'entendront pas cette jolie musique, mais c'est pour vous signaler qu'on aborde les 7 dernières minutes de l'émission et qu'on va parler Coupe d'Europe. Et on va parler Coupe d'Europe et on va commencer non pas par la Champions League. Enfin si, on va commencer par la Champions League et par l'Antwerp parce qu'on va plutôt se concentrer quand même sur les clubs belges et on reste pas de temps bien, Alex.
Comme on a cette magnifique musique en fond, vu Thomas qui est du nord de la France, j'invite tout le monde à aller regarder l'annonce du Racing Club de Lens pour son groupe de Ligue des Champions. C'est une énorme réussite. Je l'ai partagé sur Twitter de Sportimax, mais franchement, allez voir, ça vaut la peine. Je ne vais pas dire ce que c'est, mais ça vaut vraiment la peine.
Eh bien, on regardera ça. Champions League, on va parler de l'Antwerp. On va commencer par l'Antwerp, le champion de Belgique, qui a tiré un groupe qui a vraiment un parfum de Coupe d'Europe. Hein. Il y a le Barça, il y a Porto, il y a le Shakhtar Donetsk. On rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Le troisième sera reversé en C3 avec un barrage contre un deuxième de groupe. Quelles sont les chances, à votre avis, de l'Antwerp de sortir de ce groupe? On va parler d'abord des huitièmes de finale.
Zéro.
Proche de zéro, ouais.
Proche de zéro.
Je suis inquiet, très inquiet.
Ouais, bah, le Barça, ça va sortir du groupe. Et malheureusement pour eux, en fait, ils ont peut-être deux équipes qui, sur le papier, peuvent paraître plus abordables. Mais le Porto, c'est une équipe spécialisée de la Ligue des Champions. Et ouais, le Shakhtar, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, ils sortent quasi systématiquement des poules. Hein. C'est une équipe très dure à manœuvrer.
Donc... On parle de huitième de Ligue des Champions. Je pense que c'est vraiment... Pour la troisième place, ça va se jouer sur un détail.
Oui, peut-être si le Shakhtar, avec tous les problèmes qu'on connaît...
Il y a le Shakhtar qui ne joue pas à domicile, qui joue à Hambourg.
Ouais, c'est ça.
Il y a le dernier match, Antwerp joue contre Barcelone. Est-ce que le Barça enverra une équipe baissée et est-ce que là, ils pourront grappiller quelques petits points aussi? Donc... Il y a quand même certains facteurs qui pourraient plaider à l'avantage, mais je ne vois pas Porto se prendre une deuxième année consécutive les pieds dans le tapis face à un club belge. Donc,
C'est vrai, ça va être compliqué pour l'Antwerp.
Ils ont perdu contre un club belge.
Bah, ils ont perdu 0-4, c'est leur plus grosse défaite à domicile depuis Liverpool, et c'était face à Bruges l'année passée.
Non.
Si.
Il paraît.
Et Bruges a même mis 5-0 à Anderlecht il n'y a pas si longtemps, c'était aussi leur plus grosse défaite.
Avant de parler des autres... Club belge, on va se faire taper sur les doigts, mais Thomas est là, donc on va en parler. Le groupe de la mort, comme on l'appelle, il y a toujours un groupe de la mort. Visiblement, c'est le PSG qui l'a tiré. Oui, Borussia Dortmund, AC Milan et Newcastle. Je ne sais pas quel sera le niveau de ces équipes. En tout cas, on peut être sûr que les supporters parisiens feront de magnifiques voyages parce que c'est trois stades où l'ambiance est fabuleuse.
Et c'est un bon test. C'est un très bon test, même si Dortmund et Newcastle ont un peu plus de mal en début de saison. Le Milan est bien. C'est un bon test, mais ça reste un Paris, si on a l'habitude d'être très mauvais en huitième et quart de finale, on est plutôt des spécialistes de la phase de poule, hein, parce qu'on a déjà eu des groupes de la mort avec Liverpool, avec Naples. On a eu le groupe avec Manchester aussi, où ça s'est même parfois joué jusqu'à la dernière journée. Mais ça va être intéressant.
Ça va être intéressant.
C'est surtout le déplacement à Newcastle. Newcastle-PSG, c'est quand même un match que je vais regarder. Ça...
Newcastle, ils n'ont pas...
Ouais.
Ça sent
ils
bon les années 90.
Ouais.
Comment?
Ils n'ont pas signé un certain Maguire?
Ils ont un esprit Maguire.
C'est vrai?
Pense,
hein. Quel bonheur. ouais, c'est vrai que habituellement le PSG est quand même favori de son groupe. Là, c'est peut-être un petit peu moins vrai, même s'ils ont une tête devant quand même. Mais
ouais,
bon,
je pense qu'il le reste. Après ça.
Ça a été une surprise l'année passée qu'ils finissent deuxième et malheureusement pour eux, ça s'est soldé par une élimination en huitième. Ouais, là, ça serait...
Le tirage au sort fait que, et comme déjà, il n'y a pas beaucoup de clubs français parce que tous les ans, en tour préliminaire, notre troisième se fait taper. Et de toute façon, on sait qu'avec le tirage en huitième, on va avoir un gros parce que le système fait que les clubs de même pays ne peuvent pas se rencontrer. Donc.
On verra ça. On passe à la C3 dans laquelle l'Union Saint-Gilloise va aussi faire au moins un très beau déplacement à Liverpool. Ils seront également opposés à l'ASC, le club autrichien, et au TFC. Dans le stadium qui n'est pas la plus grande ville de foot qu'on connaisse.
Ils jouent
en mauve, ça motivera peut-être les unionistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les chances? Comment vous jaugez les chances de l'Union?
Bah c'est dur, mais c'est plus dur que l'année dernière. C'est un groupe plus dur que l'année dernière parce que Liverpool, et qu'il n'y avait pas une équipe de ce niveau l'année dernière, je pense, dans le groupe. Toulouse, c'est... Alors, français... Jeudi, ça veut dire jeudi noir, parce que nos clubs français en Europa League, en Conférence League, arrivent toujours avec beaucoup d'orgueil, d'ego, et pour au final se prendre les pieds dans le tapis. Mais ça sera serré, ça jouera entre... Je pense que Liverpool va sortir et qu'après ça jouera. Mais l'Union peut aussi faire troisième, aller en Conférence League, qui est aussi une Coupe d'Europe taillée pour cet effectif. Donc,
Et effectivement, on en avait parlé, et vous en aviez parlé la semaine passée aussi, le fait d'être en Conference League est parfois, enfin, est sans doute pour le coefficient, en tout cas belge, une meilleure chose que d'aller espérer être très haut. Et donc, on va passer au groupe de C4, la Conference League, dans laquelle là, donc, on a plusieurs clubs belges. On commence par la Gantoise, qui va avoir, comme tu le disais, comme adversaire le Maccabi Tel Aviv. Les autres déplacements, enfin, ça va être très folklorique et très exotique pour la Gantoise, puisque Luhansk contre Zorya Luhansk. Et puis sur Breiðablik, un club islandais, ça va dans tous les sens, là.
Après, c'est un club, ils doivent passer de toute façon. Donc, encore une fois, c'est bien pour le football belge.
C'est ça, c'est l'occasion de faire des points.
Le Tel Aviv va avoir un choc thermique.
En Islande. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas quand les matchs sont prévus, mais c'est vrai qu'entre le choc thermique Tel Aviv Breiðablik, ça va être quelque chose. Le club de Bruges, lui aussi, va aller au nord pour affronter Bodo Glimt.
Au nord.
Ouais. Le Beşiktaş et Lugano. Lugano qui a perdu, qui a été éliminé par l'Union. Là aussi, ça devrait sembler.
C'est pas si simple pour Bruges. Bruges qui n'a déjà pas eu de chance avec Osasuna, qui était vraiment l'équipe la plus forte avec Aston Villa au tour préliminaire. Là, Bruges se prend une des révélations norvégiennes des dernières années en Europe, qui a un recrutement exceptionnel avec Vetlesen, Boniface et j'en passe. Et Beşiktaş, ça reste Beşiktaş, même si c'est entraîné par Senol Güneş et que sur papier, tu te dis, c'est une équipe un peu vieillotte et sans trop de stars absolues, il faut toujours aller les battre. Donc ouais. ça va vraiment pas être simple pour Bruges.
Non, il faut aller en Turquie, c'est compliqué dans l'ambiance. On le sait, c'est des chaudrons, hein, que ce soit Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. On peut même étendre aux autres clubs turcs. Personne se promène en Turquie, hein. Même des gros clubs.
Même des gros clubs. Quant à Genk, le dernier, c'est Ferencvaros, les Hongrois, la Fiorentina et Kukarici. Et non pas la cucaracha. Je suis sur ma lancée des jeux de mots. Là, peut-être la Fiorentina et semble un ton au-dessus, peut-être.
Ferencvaros aussi, c'est un club qui était en Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. Attention, c'est toujours pareil. C'est le club des pays de l'Est. Vous pouvez toujours avoir des très bons joueurs.
Bon, et écoutez, on a fait un bon tour. On leur souhaite un dernier mot. Ouais. Henri, toi qui n'est pas concerné par la Coupe d'Europe, qu'est-ce que tu...
Je suis derrière les clubs belges.
D'accord. C'est face à l'Union aussi, ou alors tu seras pour un club en mauve?
Non, pour l'Union.
C'est bien.
Et que pour l'Union, pas pour Bruges?
Si, pour tous les clubs belges, il me pose la question pour l'Union face à un club qui joue en mauve.
Et bien en tout cas, merci à tous, merci à tous les trois d'avoir été là, d'avoir animé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on parlera, on va se concentrer sur les sélections, puisqu'on le rappelle, les Diables Rouges jouent déjà vendredi. Voilà, et ben voilà, on sait tous, et ben on verra. Et en tout cas, merci à toutes et à tous, bonne semaine. Salut à tous.
À tous.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be. Did you see it coming or was it just a big mistake? If you're listening in the future, can you tell me my sweet tooth, you're looking like Judaica. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be. Judaica.